on a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
Bah, c'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiat.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines, c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire? Comment transmettre nos cultures à nos enfants? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts? Comment lutter contre les stéréotypes? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti ! Est-ce que notre rapport à notre identité passe aussi par notre rapport à nos aînés? C'est une question que je me pose et à laquelle je tente de répondre dans cet épisode 4 de la saison 3, à nos grands-mères asiatiques. Dans ce troisième épisode de la mini-série, Anna Chen vous raconte sa Apo, sa grand-mère maternelle chinoise.
Alors, je m'appelle Anna Chen, je suis d'origine chinoise. J'ai choisi de parler de ma grand-mère maternelle. Et quand je pense à grand-mère, il n'y a que elle qui me vient à l'esprit sans me dire que l'eau, ce n'est pas ma grand-mère, mais c'est juste que j'ai eu très peu de liens. Elle était en Chine et moi, j'ai vécu toute ma vie en France. Et ma grand-mère maternelle, en fait, je vais juste enlever maternelle parce que pour moi, c'est ma grand-mère. J'ai vraiment grandi avec elle. Alors, ma grand-mère, elle s'appelle Lin Sui Nai. En chinois, dans notre dialecte, on dit « Sainang ». C'est la dernière d'une famille de, je ne sais plus combien de garçons, peut-être qu'ils étaient 5 ou 6. Et en fait, elle était un peu la fille chérie, quoi. Alors qu'en fait, dans la famille chinoise, les garçons ont beaucoup plus d'importance, ils sont mis sur un piédestal. Mais elle, comme c'était la petite dernière, et puis elle était très attentue dans une famille que de garçons, elle était vraiment, pour moi, chouchoutée, même si elle n'a pas coupé aux tâches ménagères et tout ça. Mais elle avait quand même une place spéciale dans la famille, quoi. Elle est née dans la province de Liao, dans la petite ville de Liao, dans la province de Zhejiang, en Chine, 1940, il me semble. Oui. Elle a été mariée à mon grand-père, ça se faisait à l'époque, très jeune, à l'âge de 17 ans. Elle a eu au total 7 enfants, un enfant tous les 2 ans. Et elle est venue en France dans les années 1980. Et donc, elle a vécu depuis les années 80 en France toute sa vie. On était au total 11 petits-enfants, normalement, hiérarchiquement, dans la tradition confucianiste. Les garçons ont beaucoup plus d'importance. Les enfants de son fils ont beaucoup plus d'importance, c'est-à-dire les enfants de mon oncle, eux, sont mis sur un piédestal. Les filles, une fois mariées, n'appartiennent plus à la famille. Donc moi, en fait, finalement, j'aurais pas dû avoir, entre guillemets, d'importance pour ma grand-mère. Mais je sais que j'étais la première petite fille née en France. Tous les autres, ils étaient nés en Chine avant moi et après, ils étaient nés en France, après moi. J'étais la petite fille pour moi, chouchou. Mais c'est ce que ma mère me disait et c'est ce que je remarquais aussi. Mais toute mon enfance, de 4 ans à 11 ans, je crois que quasiment toutes les vacances, j'étais chez eux. Ils avaient une boutique dans le Marais à l'époque, la rue du Temple. C'était une rue plein de magasins de commerçants de maroquinerie chinois. Donc, c'est un magasin que tu vois qui mène jusqu'à BHV. C'était que des magasins de chinois, de commerce. Et en fait, mes grands-parents, ils avaient un magasin de ceinture là-bas. Et donc, j'ai passé mon enfance là-bas. Ils m'emmenaient le matin là-bas. Et je restais dans le magasin. Je jouais dans l'arrière-cour. Ma grand-mère, elle travaillait. Je regardais. Je posais des questions. Qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Ma grand-mère cuisinait dans l'arrière-boutique. Je la regardais. Je humais ce qu'elle cuisinait. Elle mettait de l'ail, des choses comme ça. Et je la regardais. Et ouais, pour moi, c'était une vie normale, en fait. Il faisait rien de spécial. Il m'emmenait pas, je sais pas, au parc ou dans les magasins. Rien, il faisait pas ça. Mais moi, à l'époque, j'étais là, je les regardais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient des trous dans les ceintures. Ils rangeaient les ceintures. Ils faisaient des coutures. Enfin, c'était ça qu'ils faisaient. Et puis, ils vendaient des ceintures. Et puis, mon grand-père, il était derrière la caisse. Il y avait des gens qui venaient acheter. Puis moi, j'étais là en train de dessiner sur le comptoir. Et ouais, c'était notre vie, quoi. Le week-end, ils allaient faire la gym avec leur bande de petits vieux dans les parcs, le jardin, le parc de Belleville, au Buttes-Chaumont. Et puis, ils étaient là, ils faisaient du... Et je ne savais pas que c'était du tai chi, mais j'ai découvert plus tard que c'était du tai chi, ils faisaient ça. Puis, soit je les regardais faire, soit je faisais avec eux, et puis je faisais « ok ». Et j'étais cool, en fait. Pour moi, c'était activité avec mes grands-parents. Et je ne demandais pas plus, pas moins. Et puis, si je voulais dormir, on me laissait dormir. Et puis, si je venais, c'était prendre l'air avec eux, j'y allais. Donc, c'était, il n'y avait pas d'attente et puis c'était la slow life. Même si j'avais 10 ans, 8 ans, 7 ans, bah, je ne demandais pas plus, je ne demandais pas être divertie. J'adorais. C'est vraiment le souvenir que je garde. Hein. J'ai eu que des louanges. Elle disait, Anna, elle est très sage, Anna, elle est jolie, Anna, elle écoute, Anna, elle est calme, c'est facile de la garder à la maison et tout. Et elle me disait ça, en fait. Donc, ça lui faisait plaisir de m'avoir chez elle. Il m'aimait bien parce que j'étais tranquille, j'étais gentille, j'étais... Enfin, ça, c'est une qualité très chinoise que les Chinois aiment bien, c'est obéissante. Je pense que j'étais juste calme, en fait. Et puis, et pour moi, c'était du répit quand j'étais chez mes grands-parents. Parce que quand j'étais à la maison, c'était souvent... ma mère, elle me forçait à manger, elle était méchante, elle me critiquait. Quand j'étais pas sage, elle me tapait. Enfin, c'était vraiment... Ma mère, elle n'a pas été cool avec moi. Chez ma grand-mère, elle m'engueulait pas, elle était cool, j'étais là, je la regardais, elle faisait ses trucs. Et pour moi, j'étais, je sais pas, c'était apaisant. C'était vraiment apaisant. Ma mère, mon père, ils parlent le dialecte de Wenzhou. Donc, je comprenais, enfin, je parlais la même langue que ma grand-mère. Mais il n'y a pas forcément de long dialogue. C'était Anna vient manger, Anna le repas est prêt. Les parents, les grands-parents, quoi, sont pas là à raconter au coin du feu. Oui, c'était ci, c'était ça. Et ils vont peut-être dire des fois, ouais, la vie était dure. Il y a eu ça dans les champs. Il y a ces images de la Chine qu'on a quand les gens se marient, bah, ils sont portés dans des palanquins. Les femmes, elles ont des belles tuniques, une grande couronne avec plein de petites perles qui tombent. J'ai dit, grand-mère, quand tu t'es mariée, est-ce que tu étais dans un palanquin? Je rigole parce qu'elle a rigolé. Elle a fait... Mais elle a tellement rigolé, elle a dû dire, mais de quoi elle parle? Je crois qu'une fois, j'étais assise dans l'arrière-boutique ou derrière dans la cour avec ma grand-mère. Et puis, on se faisait des fois des sessions. Je fais, hey, regarde, grand-mère, t'as des cheveux blancs. Et genre, je vais te les arracher. Vas-y, arrache. Pour moi, c'était un moment de grande complicité. C'est très bizarre à dire, mais... Et pour moi, c'était, je sais pas, la toucher. Et puis genre, attends, je vais regarder dans tes cheveux. Comme, je sais pas, c'était tendre. Il y a ce souvenir qui est très marquant, qui était venu après qu'elle soit morte. Quand je le vivais, je le prenais comme une normalité. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez elle, j'arrivais chez elle, c'était, je faisais ding-dong. Et le truc, c'est que j'ouvrais la porte et puis ma grand-mère disait toujours les mêmes phrases. C'était « Oh, Anna, t'es arrivée ?» Je fais « Oui, je suis arrivée. »« Oh, elle est où ta mère ?» Et c'était toujours la même phrase. Mais le truc, c'est que bah, quand elle est morte, c'est cette conversation que j'ai entendue encore et encore à chaque fois que j'allais la voir. C'était toujours la même façon qu'elle avait de me recevoir chez elle. Et c'est ça qui m'a fait énormément pleurer parce que je me suis dit « Je n'entendrai jamais plus cette conversation, en fait. » Aussi simple. Et c'était le quotidien, c'était les petites choses et les grandes choses. Hein. J'avais tellement idéalisé ma grand-mère, je me suis dit, ah, ma grand-mère est trop gentille et tout, elle est trop gentille avec moi. Et le truc, c'est que j'ai appris très tard et j'ai compris qu'en fait, ma grand-mère, elle a été une mère très stricte. Elle engueulait ses enfants tant qu'elle pouvait. Elle a dû critiquer ma mère, elle a dû être méchante avec ma mère, elle a dû frapper peut-être ma mère, je ne sais pas. Ça a sauté d'une génération, le fait que ma grand-mère, elle soit gentille avec moi. Mais je pense que ma grand-mère n'avait pas d'attente envers moi. Elle n'avait pas besoin de m'éduquer, elle avait besoin que je sois obéissante ou que je fasse certaines choses d'une certaine manière, en fait. Donc, elle était douce et gentille parce qu'elle n'avait juste pas d'attente. Et puis, pour moi, ça a été cool chez elle, quoi. Je me suis rendu compte que comme ma mère était vraiment dure, critique, autoritaire avec moi, ma grand-mère, en étant douce, gentille, elle a vraiment été une figure d'attachement et puis une deuxième maman pour moi, en fait. Je crois que j'ai envie de lui dire que je l'aime, même si dans notre tradition, dans notre culture, c'est pas ce qu'on fait. Hein. Et c'est pas ce qu'elle cherche non plus. Mais pour moi, c'est important de dire... J'ai envie de lui dire que je l'aime, qu'elle a été ma deuxième maman. Je pense qu'elle comprendrait pas, hein, parce que si je disais ça. J'ai envie de lui dire que je suis désolée d'avoir moins été la voir plus tard dans ma vie, en fait. Parce que quand je suis partie de chez mes parents à l'âge de 20 ans, j'ai eu tellement honte d'avoir fait cet acte d'être partie de chez mes parents, parce que c'est quelque chose qui se fait pas du tout dans la famille chinoise. Et donc, je me suis un peu coupée, je me suis éloignée, et à cause de ça, je suis allée moins la voir. J'ai envie de lui dire merci d'avoir été une grand-mère formidable pour moi, même si ça a été naturel pour elle, même si pour elle, c'était normal. Je la remercie d'avoir pris soin de moi, d'avoir cuisiné pour moi. Et de rester telle qu'elle est. Et je suis contente d'avoir passé toutes ces années, tous ces instants, même s'ils ont été très, 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 très simples, même si elle a juste vécu telle qu'elle est, même si c'était cuisiner, nettoyer, aller faire les courses. J'ai adoré. Même si sur le coup, je ne me disais pas j'adorais. Aujourd'hui, c'est des petits souvenirs... doux et qui réchauffe le cœur, et que si je pouvais voyager dans le temps, j'aimerais bien aller retourner, trouver cette paix avec elle.
Merci Anna pour ce partage. Et ce que je retiens, moi, de cette relation, c'est la douceur et le naturel avec laquelle elle s'est déroulée. Un lien doux mais fort dans la simplicité du quotidien partagé. C'est aussi l'équilibre qu'elle lui a apporté. La grand-mère d'Anna était son refuge. Anna dit que parfois, la tendresse saute une génération. Et parfois, au contraire, c'est la grand-mère qui occupe ce rôle de matriarche stricte. C'était le cas de Mélanie Vijayaratnam, que vous entendrez dans le quatrième et dernier épisode de cette mini-série « À nos grand-mères asiatiques ».